Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission donc Quoi de neuf, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. Nous sommes dans la deuxième heure de l'émission et comme annoncé, nous allons parler de cinéma avec notre invité Jacques Lemierre qui va nous présenter à son tour ses invités à lui. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Heureux de t'accueillir comme toujours. Alors cinéma, tu es déjà venu beaucoup parler de cinéma pour Cité Philo. Peut-être tu reviendras cette année d'ailleurs.
Hein. Oui, exactement.
Et puis là en l'occurrence, tu viens nous parler de la réouverture, on peut dire ça
d'un... De l'ouverture de saison, de l'ouverture du cycle 2022-2023. Du nouveau ciné-club.
Voilà, donc un ciné-club qui se situe à Villeneuve-d'Ascq, on va dire. Le Méliès, c'est l'endroit qui vous héberge, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que c'est une programmation du Méliès ou c'est un peu externe ?
Ah, écoute, non, il faut dire que c'est une programmation du Méliès et juste rappeler les circonstances de la création du nouveau ciné-club, donc aux approches de janvier 2014. Où nous faisons, Youssef Boudjemaï et moi, la proposition à Antoine Tillard de créer quelque chose qu'on n'avait pas encore nommé, mais on savait que c'était un petit peu le principe du ciné-club, dans la programmation du Méliès, et proposition qu'Antoine Tillard accepte vraiment avec beaucoup de... avec un grand esprit d'accueil. L'idée, c'était de créer 10 rendez-vous dans un cycle annuel, en général le jeudi de la fin du mois, où voilà, on puisse essayer de reconstituer le temps et le lieu du ciné-club. Mais pourquoi on l'a appelé nouveau ciné-club ? Parce qu'on savait que les ciné-clubs, ça avait été une histoire glorieuse, mais terminée. Donc on voulait pas faire croire qu'on allait recommencer à l'identique. D'ailleurs, il y a des caractéristiques de notre fonctionnement qui montrent qu'on n'est pas à l'identique. On n'est pas constitué en association. On n'est pas membre de la Fédération nationale des ciné-clubs. On a un contrat moral avec un directeur de salle qui a été sensible à l'idée qu'il y ait une présentation raisonnée de films qui se sont inscrits dans l'histoire du cinéma. On joue pas la carte de l'actualité, on joue la carte de la construction d'une programmation, où je dis raisonnée, je crois que c'est le mot, voilà.
Donc cette programmation cette année, c'est un cycle assez précis sur une personnalité du cinéma qu'on va présenter.
Alors c'est la première fois qu'on a un cycle qui est consacré à une personnalité du cinéma. On a eu des cycles qui ont concerné le bilan d'une décennie. On a eu des cycles qui ont été thématiques. L'année dernière, Paysans, Paysages. On a eu des cycles qui se sont intéressés à la question des genres cinématographiques. Et on a eu une seule fois une filmographie nationale, le cinéma belge. Et donc c'est la première fois. Et pourquoi ? Parce que avec Jean-Luc Comolli, qui a disparu au mois de mai dernier, on a une figure très très importante dans le cinéma, pas seulement français, parce que sa pensée a rayonné dans le monde, qui est une figure à la fois de praticien et de théoricien.
Donc c'est lui qu'on va découvrir.
Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle sont avec moi dans votre émission Ginette Lavigne, qui est réalisatrice et monteuse, mais dont on peut dire qu'une grande partie du travail de montage s'est fait dans la collaboration avec Jean-Louis Comolli, et qui a évolué au fil du temps, cette relation monteur Ginette Lavigne, réalisateur Jean-Louis Comolli, en co-réalisation. Parce que si on regarde les films de la dernière partie de la production cinématographique Jean-Louis Comolli, en réalité Ginette Lavigne est sa co-réalisatrice, en même temps qu'elle reste sa monteuse.
Alors, je vais peut-être interroger Ginette.
Et voilà, et je termine la présentation. Et ouais. Gérald Collat, qui, producteur à l'INA, a été producteur de façon récurrente de films documentaires de Jean-Louis Comolli.
Voilà, bienvenue à vous deux. Hein. Donc, merci. Ginette Lavigne, est-ce que vous avez une idée globale de l'œuvre de Jean-Louis Comolli, hein, et est-ce que vous avez... peut-être fait la synthèse en travaillant avec lui aussi de l'essence de son travail.
Alors moi j'ai rencontré Comilly en 1992-93, fin de l'année 92. C'était sur un film qui va d'ailleurs être présenté dans le cadre du Ciné-Club, qui est La vraie vie dans les bureaux. Donc à l'époque, Jean-Louis ne faisait plus déjà que des documentaires. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière dans les années 60 avec un film très connu qui s'appelle La Cécilia. Et puis ensuite, il y a eu L'Ombre rouge, et il y a eu Balles perdues. Il y a tous des films de fiction, cinéma de fiction. Et dans les années 80, Jean-Louis s'est tourné vers le cinéma documentaire. Et donc moi, je l'ai rencontré en 92. À l'époque, j'étais assistante sur ce film. Et puis ensuite, nous avons continué à travailler ensemble de manière plus ou moins régulière. Et c'est devenu totalement, enfin, vraiment important et régulier au moment des années 2000. Voilà. Après, en 2000, j'ai commencé à monter les films de Jean-Louis. J'ai commencé à travailler pour lui comme monteuse. Et là, on n'a pas arrêté. C'est-à-dire que, bon, ça fait... donc, c'est une relation qui s'étend sur plus de 20 ans, quoi, évidemment. Sur l'évolution du travail de Jean-Louis, je ne sais pas comment vous dire.
Est-ce que vous avez senti des tournants dans ces projets de réalisation, par exemple ?
Je pense, j'ai pas eu le sentiment de modification importante.
Comment on pourrait définir son travail, sa spécificité?
Alors Jean-Louis travaillait sur, en fait, je dirais d'une part, il y a une part très très importante du travail de Comilly qui concerne ce qu'on appelle la série Marseille, c'est-à-dire que Comilly a commencé à filmer la vie politique marseillaise en 1989. Et il a filmé comme les élections municipales, cantonales, législatives, jusque dans les années 2015.
25 ans, oui.
Voilà, c'est-à-dire que ça s'est terminé en 2015, et donc ça, c'était une part extrêmement importante de son travail. C'est un volet très important. Ça a donné donc lieu à des... je ne sais pas combien de films maintenant.
Neuf.
Voilà, il y a donc neuf films. Certains qui font deux heures ou trois heures, et d'autres beaucoup plus courts. Ce sont des films qui ont été faits en cinéma direct, bien sûr, puisque quand il s'agit de suivre une campagne électorale, voilà, on est là. Alors, ce qui était intéressant dans le travail de Jean-Louis, c'est que c'était du cinéma direct, mais je dirais indirectement direct. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, ce personnage qui est Michel Sanson, qui était en réalité un véritable journaliste, qui était d'abord journaliste à Libération et ensuite correspondant du Monde à Marseille, mais qui dans les films de Jean-Louis joue son propre rôle de journaliste. Mais il pose des questions comme s'il ne savait pas, comme s'il n'était pas réellement ce qu'il est. Bon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un personnage qui serait, je sais pas, peut-être l'alter ego de Jean-Louis, mais ils sont quand même en cinéma direct, c'est-à-dire qu'ils vont suivre les candidats, ils vont dans les meetings, etc. Voilà. Et donc il y a toujours cette manière de faire dans les films de Jean-Louis, c'est-à-dire que dans les autres films qui sont moins en cinéma direct, je dirais plus élaborés, plus complexes, il y a très souvent comme ça un personnage qui est relais entre le réalisateur et les personnes qu'on va filmer.
Donc, s'il y a un personnage comme ça, on peut dire que ce n'est pas vraiment un documentaire pur. Il y a une mise en scène.
Il y a toujours des mises en scène dans les documentaires. Donc, oui, il y a toujours de la mise en scène. Mais cette manière de faire, par exemple, Jean-Louis l'a reprise en faisant un film en Nouvelle-Calédonie, sur lequel j'ai travaillé aussi, où il y avait donc Alban Bensa, qui était un ethnologue, qui nous a conduit en Nouvelle-Calédonie, et qui faisait les entretiens, les rencontres, etc. Voilà.
Et donc, vous, votre intervention, le montage, est-ce que avant le montage, vous étiez au courant de ce qui s'était passé, voire même est-ce que vous avez participé à l'élaboration des visites, des plans qu'il aurait fait?
Ça dépend des villes. Sur les Marseilles, je n'y suis jamais allée, je n'ai jamais assisté au tournage. Mais par contre, le film en Calédonie qui s'appelle Les Esprits du Cognambo, j'étais au tournage, j'étais assistante sur ce film. Donc oui, je connaissais très bien les rushs quand j'ai commencé à travailler sur le film. C'est vrai qu'il y a eu un moment où... mais c'était très particulier avec Jean-Louis. C'est-à-dire que je dirais qu'on n'avait pas de place réellement déterminée. Voilà. Bon. On travaillait. Il y avait toujours à peu près la même équipe. Et finalement, bah oui, on pouvait se retrouver assistant. Au montage, c'était moi la plupart du temps. Mais c'est vrai que. Bon, c'était pas. C'était pas clivé, si vous voulez. C'était pas entre chacun assigné à un poste déterminé. Voilà.
Mmh. Bon. C'est un projet collectif, si... on va dire.
Oui, alors... Oui, enfin, il faut quand même nuancer. C'est-à-dire que je dirais que les postes réellement techniques, c'est-à-dire opérateur ou l'ingénieur du son, eux, ils sont vraiment sur leur poste. C'est-à-dire qu'on va pas prendre le travail. On va pas faire à leur place parce que ça demande une technicité que ni Jean-Louis ni moi n'avions. Mais par exemple, dans la salle de montage, il y a eu un moment où Jean-Louis s'est mis un peu au montage. Les premiers films que j'ai montés avec lui, c'était un film qu'il avait fait avec Carlo Ginzburg en Italie, autour de l'affaire Sofri. C'était à partir d'un livre écrit par Carlo Ginzburg. Et Jean-Louis avait décidé de monter seul ce film. Donc il avait installé la bande montage, Final Cut, qui venait de sortir. Et il avait commencé à travailler seul sur ce film. Bon, moi j'ai été assistante sur ce film, donc j'avais suivi toute l'élaboration, le tournage, etc. Et évidemment j'avais très 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 envie de venir dans la salle de montage, donc je suis allée. Et puis finalement, j'ai commencé à prendre la machine en main. Donc, mais lui avait un peu d'avance. Donc, je me rappelle que les films qu'on a montés après, de temps en temps, je disais, écoute, allez, prends les manettes, je suis fatiguée. Quoi. Donc, il montait un peu à ma place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Ça nous est arrivé souvent, ça, voilà.
Donc, quand on fait un montage, quelque part, on décide... On décide à partir d'une trame ou on décide sur l'instant qu'on ressent un événement qu'on a filmé.
Alors c'est le montage. C'est très particulier le montage avec Jean-Louis. C'était d'abord parce qu'il venait pas souvent. Bon, à part les moments là au début où il avait un peu envie de découvrir de travailler un peu sur cette machine, à un moment il a arrêté. Voilà. C'était pas un réalisateur qui était derrière le monteur en permanence à dire ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ça existe, hein. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont besoin d'un monteur qui obéisse. Qui est peu d'initiative. Là c'était plutôt le contraire. Donc il arrivait assez souvent que Jean-Louis ne soit pas là. Donc il me laissait assez seul. Sauf au début, c'est-à-dire que je pense qu'on a toujours vu les rushs ensemble, ce qui avait été tourné. Et là, il y a toujours un moment, il y a des vrais moments de discussion, c'est-à-dire que un réalisateur qui découvre ses rushs, c'est quelqu'un qui... Il découvre les rushs en ayant en mémoire, en ayant en tête... La mémoire du tournage, en fait, et c'est le désir qu'il avait au moment du tournage. Donc, ça peut être extrêmement décevant ou extrêmement formidable. Voilà. C'est-à-dire que, et donc, dans une même journée, en voyant les images, il y a tout en même temps. Voilà. Donc, le monteur, c'est le premier spectateur. C'est... En particulier les films sur Marseille, par exemple. Moi, je n'étais jamais au tournage, donc je ne savais pas du tout quelles images j'allais voir. Et donc, je réagissais en fonction de ce que je voyais. Mmh. Des fois, j'étais émue, des fois, je trouvais ça intéressant, des fois, je trouvais ça trop long, mal fichu, enfin bon, ou par contre, très bien. Donc, il y avait un peu... Bon, et là, je pense que Jean-Louis faisait vraiment confiance au visionnage que j'avais, au regard que j'avais. Donc, en général, on voyait les rushs ensemble. Souvent, on choisissait... à peu près comment ça allait commencer. Voilà, on se disait, bah, tiens, ce serait bien que ça commence comme ça. Alors, ça dépend des films, bien sûr, parce qu'il y a des films qui se font au montage, vraiment, et des films dont la chronologie nous est imposée. C'est-à-dire que, dans le cadre des campagnes électorales, évidemment, on suit la chronologie de la campagne électorale. Bon. Mais, sur les autres, par exemple, les films qu'on a fait en Calédonie, ben, il fallait refaire le film au montage. C'est au moment du montage que se construisait le récit. Donc, voilà. Là, il fallait choisir un peu le début. Et puis après, ma foi, c'est très empirique, le montage. On voit si ça marche ou pas, quoi. Je dirais. Il y a des moments... et les choses peuvent bouger. Hein, les derniers films que j'ai montés avec Jean-Louis, par exemple, son dernier film... c'est un portrait d'un cinéaste, c'est le portrait de Nicolas Philibert qui a fait Être et Avoir, donc un cinéaste très connu. Bon, a priori, il n'y aurait pas eu pas nécessairement beaucoup de discussions, et pourtant, il y en a eu beaucoup. Je me rappelle que on n'a pas du tout monté le film dans la. On n'a pas monté les images dans l'ordre dans lequel elles ont été tournées. Voilà. Donc, ce film, qui est un portrait de Nicolas, c'était une discussion entre Jean-Louis et Nicolas Philibert. Ils ont commencé par parler d'un film. Et en fait, ce film n'a pas été au début. Au début, on l'avait mis. Je pense que la première version, c'est... On a tenté de suivre la chronologie du tournage. Et très vite... ça a disparu.
Alors, quand vous faites un montage, enfin, nous, on fait des montages en radio aussi, hein, est-ce que vous avez une idée de la durée, un cadre, j'allais dire, obligatoire, ou est-ce que vous jugez que c'est le temps nécessaire pour traiter d'un sujet? Est-ce que votre producteur est d'accord? Peut-être qu'on pourra lui donner la parole. Vous avez carte blanche?
Non, en général, ça dépend des films. En général, on sait qu'on doit faire un film de 52 minutes ou d'une heure et demie, voilà, oui. En général, on a la durée.
On peut peut-être passer la parole à Gérald Collat, donc, qui était producteur à l'INA. Donc l'INA, une grande maison, grand respect. Hein. On peut dire que l'INA préserve la mémoire de ce qui a été produit en France, pas seulement en cinéma, hein, en archives audiovisuelles, même en son, parfois. Est-ce que l'INA produit directement ces documentaires avec des artistes, des réalisateurs qui travaillent pour l'INA, ou est-ce qu'il y a la proposition d'artistes qui disent ben, « j'ai une série que je voudrais réaliser et je demande l'aide de l'INA ».
Oui, alors d'une part, je dois dire que j'ai travaillé comme producteur à l'INA de 1990 jusqu'il y a 18 mois à peu près où j'ai quitté, et maintenant je suis producteur dans une société indépendante, privée. Alors l'INA effectivement est bien connue à cause de sa mission de conservation des archives, alors pas de cinéma. L'INA c'est... l'héritage la télévision publique, c'est-à-dire ce qui était l'ORTF jusqu'à son démantèlement en 1974-75, et après qui a éclaté en diverses sociétés des trois chaînes, dont l'une maintenant a été privatisée. Donc voilà, l'INA conserve toutes ces archives de la télévision, des fictions qui étaient produites, les films, les émissions documentaires, les journaux télévisés, les émissions sportives, etc. Et bien sûr, la radio publique. Alors maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont conservées, enregistrées, à peu près une centaine de chaînes tous les jours. dans une mission un peu différente qui est semblable à celle de la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire que c'est enregistré, conservé à des fins d'archivage. Bon, mais il n'y a pas de propriété de l'INA sur ces documents. Alors la production est quelque chose qui a existé depuis le départ à l'INA dans la logique d'un service très particulier, qui s'appelait le service de la recherche au sein de l'ORTF et qui avait été créé par un grand nom qui est Pierre Schaeffer. Et donc, c'était, on pourrait dire, de l'expérimentation. Donc, il faut se replacer quand même dans ces années. La télévision, elle, techniquement, elle apparaît, je dirais, pendant la guerre ou un peu avant la guerre, mais elle ne devient un média véritablement que dans les années 60. Bon, les postes commencent à se diffuser à partir des années 50. Et ça va être au milieu des années 60 que ça va devenir véritablement un équipement que possède une grande partie des foyers français. Toute la production est publique et après les années 80, après 81, la fin du monopole, eh bien, il va y avoir l'apparition de chaînes privées, il va y avoir la création, le développement de sociétés de production privées, ce qu'on appelle les producteurs. Et donc, la mission de l'INA, est-ce que c'est une mission, la production, enfin, une activité, ça a continué, et ça a continué, je dirais, dans un contexte, dans un environnement qui était totalement différent. Donc, aujourd'hui encore, enfin, c'est une production qui est à la fois importante et modeste. Importante parce que c'est une soixantaine d'heures chaque année qui sont produites ou coproduites. Modeste eu égard au volume de toutes les heures qui sont produites en France aujourd'hui,
on
évidemment.
On peut avoir une idée de ce qui est produit en termes de diversité, peut-être ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est produit ?
Par l'INA ?
Oui.
Au départ, c'était vraiment, et ça a duré jusque dans les années 80-90, c'était vraiment l'idée de faire autre chose que ce que faisait la télévision, qui produisait encore, et puis après les producteurs. Donc il y avait, c'est comme cela que Jean-Louis Comolli a noué des contacts avec l'INA et a été produit très souvent par l'INA, c'était de faire travailler des gens qui ne sortaient du sérail, qui n'en venaient pas, plus exactement. Jean-Louis Comolli, c'est quelqu'un qui arrive au cinéma par la critique. Les cahiers du cinéma. Bon, revue mythique, parce que Godard, Truffaut, Chabrol, tous ces gens-là, toute la nouvelle vague. Il est rédacteur dans les années 60, de 1962 jusque dans les fin des années 70. Il en devient le rédacteur en chef en 1966. Et puis, après, il va quitter les cahiers du cinéma, mais il va continuer à écrire sur le cinéma et à développer un travail, on pourrait dire, de réflexion, un travail théorique sur le cinéma. Et la particularité, c'est qu'il peut articuler réflexion théorique à pratique, puisque lui-même se met à tourner de plus en plus de films, des fictions, un certain nombre, mais aussi des documentaires. Jean-Louis Comolli était un petit peu le bon client pour la production à l'INA. C'était quelqu'un qui venait d'ailleurs, pas de la télévision, du cinéma, de l'écrit, mais il y a des gens qui venaient de tous horizons, qui ont fait des films à l'INA, comme Pérec, par exemple. Alors pas forcément toujours en position de réalisateur, mais qui étaient auteurs, on les croisait avec des musiciens, avec des gens du domaine des sciences humaines, avec des gens de théâtre. Et ça, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais c'était un moment où la télévision, et le cinéma aussi d'ailleurs, étaient extrêmement fermés. C'était des milieux rigides. On passait même pas du cinéma à la télévision, et encore moins de la télévision au cinéma. Donc l'INA, c'est quand même le lieu où il y a eu ces expériences qui se sont faites avec des gens comme Godard, qui ont fait des séries pour la télévision. Et ça passait par l'INA, parce que la télévision n'aurait jamais reçu, accepté, et été en capacité de dialoguer avec ses créateurs. Donc là, il venait à l'INA, et l'INA avait des heures, des créneaux un peu réservés sur les chaînes de télévision. Donc Comolli aussi est arrivé un peu comme ça, et a travaillé sur des choses très différentes, sur la cuisine, enfin les grands chefs, sur le cinéma, sur des réalisateurs, le cinéma québécois, les nouveaux cinémas d'Europe de l'Est, sur la politique. Il a fait des films en 68, son premier film politique, sur les élections de juin 68, sur des intellectuels, sur de la musique classique, enfin une filmographie extrêmement diverse et qui témoigne d'un esprit de curiosité pour des sujets qu'il avait envie d'aborder ou qui lui étaient proposés.
Qu'est-ce qui est diffusé actuellement de Comolli dans l'espace public hertzien, on va dire ?
Alors, les derniers films de Jean-Louis Comolli sont des films qui ont été produits par l'INA et qui ont été produits sur des sujets, je dirais, qui concernent le cinéma. Bon, Ginette Lavigne parlait de son dernier film, Portrait de Nicolas Philibert. Il en a fait d'autres consacrés à, il y a un peu plus de temps, à Roberto Rossellini, à un cinéaste suisse, Richard Dindo. Il a fait aborder différentes choses comme ça. C'est des choses diffusées et qu'on retrouve en replay sur Ciné Plus, hein, Ciné Classique ou c'est le bouquet Ciné Plus, qui est un groupe Canal. Qu'est-ce qu'il y a eu de diffusé ? Alors, le propre de la télévision, c'est que l'INA est peut-être la mémoire de la télévision, mais la télévision, elle, n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que c'est diffusé, ça touche beaucoup de monde à la même heure, en même temps, et après, ça disparaît. Alors, un peu moins aujourd'hui avec le replay, notamment sur des chaînes comme ça, thématiques, qui finalement ont peut-être plus de spectateurs en additionnant toutes les gens qui viennent en replay regarder les programmes déjà passés que lors de la diffusion en direct. Mais il y a des choses en DVD qui se trouvent, hein, de Jean-Louis Comolli. Là, on parlait tout à l'heure des films sur Marseille. Il y a un coffret qui comprend les 7 premiers films de la collection, parce que les 2 derniers ont été faits postérieurement. Il y a un ensemble de 5-6 films aussi qui sont dans un petit coffret DVD qui s'appelle, je crois, Le cinéma de Jean-Louis Comolli aux éditions Montparnasse, qui doit se trouver encore avec de très beaux films dessus.
Alors là, on va parler justement de ce qui va être présenté au Méliès dans le cadre de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un hommage, une rétrospective, un focus sur...
Nous, on l'appelle hommage.
Hommage.
Et, il y a une dimension rétrospective, mais sélective, puisqu'on est obligé de travailler dans le cadre de 10 soirées. Mm-hmm. Et l'œuvre est plus... Une œuvre rétrospective intégrale, une rétrospective intégrale de l'œuvre, pardon, exigerait plus que 10
soirées.
En même
temps, 10 soirées, c'est, je ne vais pas dire un luxe, mais quand même.
Je pense que c'est à la hauteur de l'importance que Youssef Boudjema et moi-même lui donnons à Jean-Louis Comolli, qui est aussi un geste de reconnaissance. Et qui est aussi là pour exprimer le fait qu'on a eu un lien vivant avec lui, et qu'on voudrait que la mémoire de ce lien ne se perde pas. Je rappellerai que le Nouveau Ciné Club a été créé en janvier 2014. En avril 2016, on bouscule notre mode de fonctionnement, on ne fait pas la séance mensuelle du mois d'avril, et on fait un week-end entier, entre 10h du matin le samedi et 22h ou 23h le dimanche, au Méliès. Et merci à Antoine Tillard d'avoir accepté de faire ça, avec Jean-Louis Comolli présent, Michel Sanson, dont on a évoqué la figure et le rôle dans les films de la série Marseille tout à l'heure. Et donc, l'entier de la série Marseille a été montré ici, Raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne va pas remontrer. On a décidé de montrer, au contraire, ce sera la séance du mois d'octobre, le premier film que Jean-Louis Comolli consacre à une élection législative, celle de 68, qui fait suite aux événements, dans un paradoxe incroyable, parce que il était quand même très engagé du côté de la vitalité de l'irruption populaire de mai 68, et pas du côté de cette tentative de son enterrement étatique et législatif. Voilà. Et donc, ça nous intéresse beaucoup. Là, on va montrer un film qui est d'une certaine façon est une sorte de matrice, peut-être, de laquelle sortira plus tard la série Marseille, qui est finalement le portrait de la France qui voit monter le Front National et qui voit chuter l'influence des partis dits de gouvernement, à l'époque. On parlait ainsi. Mm-hmm. Alors, Jean-Louis Comolli, là, je sors un peu du cadre du Nouveau Ciné-Club, mais en même temps, je suis moi-même. Il est venu à mon séminaire « Images, son et sciences sociales » à l'université. Et il y a un troisième lieu où il est venu, c'est Cité Philo, raison pour laquelle on a tenu à proposer à Cité Philo, Nouveau Ciné-Club, une séance commune, qui sera celle du jeudi 24 novembre, où Gérald Collas sera présent. Et manière de rappeler que, voilà, ce sont les lieux qui l'ont accueilli à Lille, et qui ont porté une grande attention à son travail. On est dans une sorte de défi, parce que tout le monde ne connaît pas Jean-Louis Comolli. Et des spectateurs qui ont pu rencontrer un ou deux de ces films doivent découvrir les autres, mais aussi sont quelquefois peut-être un peu à l'écart de son œuvre théorique. Donc on va avoir une obligation et en même temps un désir pédagogique dans cette année du Nouveau Ciné-Club, de faire en sorte que les séances, non seulement, comme à l'habitude du Nouveau Ciné-Club, constituent un débat tranquille, à partir des questions que se posent les gens sur les films dans l'esprit d'un ciné-club, mais on va essayer de diriger autant qu'il est possible les gens vers ces écrits qui sont très disponibles. Très très disponible et principalement concentré dans la publication d'un éditeur, les éditions Verdier, présent aussi dans la vie d'une revue qui s'appelle Images Documentaires, qui va lui consacrer un numéro spécial qui va sortir dans les jours qui viennent et à laquelle il a régulièrement collaboré. Et moi j'ai envie de dire aux spectateurs qui viendront voir les films au Nouveau Ciné-Club qu'ils n'auront pas besoin de prendre un livre de A à Z sur 350 ou 400 pages, puisque ce sont le plus souvent des recueils d'articles, des collections d'articles, et qu'on peut prendre les choses pièce par pièce, si je puis dire. Voilà. Donc, écoutez, c'est un grand penseur du cinéma contemporain, et avec ce qu'on a dit chacun à notre manière, cette qualité singulière d'être à la fois le praticien et le théoricien.
Non. Jacques Lemire, est-ce qu'on pourrait donner la dimension sociologique de ces films ?
Moi, je dirais que c'est une question très très difficile à régler dans les quelques minutes de notre entretien, mais je dirais que il y a un fil en tout cas qui est pour moi essentiel, et là c'est aussi du point de vue de l'animateur du Nouveau Ciné-Club que je m'exprime, c'est que c'est quelqu'un qui n'a cessé de réfléchir à la place du spectateur. Et donc là voilà une entrée par exemple par laquelle son jugement critique sur les films s'exerce nous intéresse aussi le fait que il a quand même opéré un déplacement entre Il s'est intéressé dès le début au cinéma documentaire, mais il a quand même réalisé trois fictions qui sont des fictions qui l'ont fait connaître à l'époque. Je veux dire, la Cécilia, c'est pas du tout un film qui passe inaperçu dans la distribution française de l'époque. Et à un moment, il opère un déplacement. Et là, il y a beaucoup à réfléchir à partir de ce déplacement et de ce que lui va écrire aussi ensuite sur ces questions. Il va, à partir, vous me corrigez, des premières années des années 80, ne rester qu'un réalisateur de documentaires et plus jamais s'exercer la fiction. C'est un geste aussi de prise de distance par rapport à un monde qui est le monde du cinéma tel qu'il est produit, tel qu'il est distribué, tel qu'il est financé et qui sont des gestes qu'on va voir plus tard des cinéastes importants faire dans des générations suivantes. Mais voilà, ce sont des gestes importants.
Non.
Et d'ailleurs, on a donc aussi construit ces dissonances en respectant cela. C'est-à-dire que si j'ai la possibilité de décrire un tout petit peu comment on entrera dans cette programmation, on n'entre pas du tout par hasard avec le film de Ginette Lavigne qui s'appelle Jean-Louis Comolli, filmé pour voir. Parce qu'en réalité, je crois que ça nous est apparu comme par excellence le film qui était une introduction à l'œuvre, puisque Ginette Lavigne met Jean-Louis Comolli dans la position de revoir des extraits de ses films, mais qui vont être articulés à des lectures de ses textes théoriques, et je crois que c'est une douzaine de films qui sont
d'extraits de ses films qui sont
l'occasion de ce dialogue dans ce film.
Donc là, on va quand même dire que c'est demain, cette séquence particulière. Oui. Hein, ça démarre à quelle heure au Méliès ?
C'est demain à 20h.
20h, et ça va durer jusque la soirée ?
C'est-à-dire que... Après, bon, la durée d'un débat au Nouveau Ciné Club, elle n'est pas fixée d'avance. Mm-hmm. Elle est liée à la nature de l'atmosphère qui se crée dans la discussion et des questions qui émanent des spectateurs. Le film fait 1h40, donc on va commencer à débattre de ce film vers 10h-20, et je pense que ça durera jusqu'à quelque chose comme 23h. Voilà.
Mais donc ce film et ce débat, c'est une bonne clé d'entrée pour l'ensemble de...
Absolument,
de la série.
Il est choisi en tant que tel, et il est par ailleurs... Ça n'est pas rien pour nous que de commencer avec un film dans lequel Comolli est présent, corps, voix, pensée. Il est là. Voilà, ça c'est aussi la dimension d'hommage. Ensuite, on fait ce passage par ce qui est son... premier grand film documentaire, Les Deux Marseillaises, donc Jean-Louis Comolli qui, avec Andréès Labarthe, qui est un de ses compagnons d'époque, se dirige vers une législative qui est quand même une opération politique supposée enterrer la vitalité du mouvement de 68. Ensuite, Pierre Perrault, l'action parlée, qui sera montrée avec Cinéma Documentaire Fragment d'une Histoire le jeudi 24 novembre. Le clin d'œil au jeune cinéma québécois de l'époque du cinéma direct et ce mot d'action parlée qui n'a cessé d'être dans la pensée de Jean-Louis Comolli, c'est-à-dire surtout si nous filmons la parole, ne nous racontez pas qu'on ne filme pas quelque chose qui est de l'action. Et puis, Cinéma documentaire Fragment d'une histoire, qui est un autre film qui fait bien pendant aussi avec Filmé pour voir, parce que Jean-Louis Comolli revisite son histoire subjective, mais en même temps savante, du cinéma documentaire, de tous les grands cinéastes documentaires disparus au moment où il s'exprime. Et là, après... Une fois qu'on a disposé ça, dès le mois de décembre, dès le mois de janvier, deux films de fiction. Pour revenir à son geste de fiction, donc la Cécilia, qui sera montrée le 8 décembre, et L'Ombre Rouge le 26 janvier. Et après, on n'a pas encore tout publié parce qu'il faut, il faut acquérir les droits des films, mais en même temps, la trame de nos 10 séances est déjà connue. Basculer du premier semestre au deuxième, enfin, ou des 5 premières séances aux 5 séances suivantes, on va basculer avec un film qui n'est pas de Jean-Louis Comolli, mais qui est un film qui a compté pour le critique qu'il était, le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma qu'il était, et le travail d'admiration raisonnée pour John Ford. Donc, et on demandera à Jean Narboni, qui fut son co-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, venir accompagner cette séance. Et les séances suivantes seront des séances qui seront consacrées à des films documentaires de Jean-Luc Comolli qui prennent dans la période qui commence avec, pour ce qui concerne ta collaboration avec Jean-Louis, Ginette, La vraie vie dans les bureaux, mais qu'on montrera à la fin du cycle.
Voilà, cycle donc qui est présenté. On se rend, est-ce qu'on se prépare avant d'aller voir les films ou on y va comme ça
On y va comme ça, je crois. On y va comme ça en se disant qu'on va que c'est à la station Triolo à 20h. Donc on est dans l'obligation d'être porteur de rien, parce que le ciné-club, c'est ça. Si l'expression n'est pas galvaudée, mais je sais que certains spectateurs habitués de notre ciné-club le prennent comme ça, c'est aussi de l'éducation populaire, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de réquisite, il n'y a pas de science préalable. On est là et on partage un film. Et quel que soit le point d'où on part par rapport à ce film, toute question est accueillie comme bonne.
Merci Jacques Lemire. Est-ce qu'on peut avoir le détail peut-être sur le site de La Rose des Vents ou du Méliès hein?
Oui, je pense que si vous allez sur le site du Méliès...
larose.fr
Oui, voilà, mais bon, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir donner l'information
Voilà. Donc le premier rendez-vous, c'est demain. 20h, on a bien compris, au métro, donc Triolo, et c'est le Méliès, c'est juste à côté de la station.
À 20h.
Et puis
présence de Ginette Lavigne.
En présence de Ginette Lavigne, que je remercie de sa présence. Je sais que vous êtes dans l'action aussi, là, le temps de trouver le bon timing. Et puis Gérald Collat, qui sera là demain également.
Oui.
Voilà, merci d'être venu, merci pour cette présentation.
Merci pour cette invitation.
Au public, il reste qu'à venir demain soir pour démarrer ce cycle. Voilà, Radio Campus 106.6, cette émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. On va parler de science la semaine prochaine avec le festival qui est Science en fait. Et donc on aura des invités, des scientifiques, etc. La semaine d'après également, puis j'aurai des interviews que j'ai réalisées cette semaine qui vont être passionnantes, notamment celle sur l'Égypte du Louvre-Lens là actuellement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire écouter ça la semaine prochaine, mais on va trouver. Il y a plein de choses qui sont prêtes à être montées, que j'ai enregistrées. Chacun son montage. Merci à tous. À la prochaine. Dans quelques instants, l'heure est à la bande dessinée sur Radio Campus, avec l'heure de Bullet, jusque 18h30. Ensuite, ce sera l'heure de le mettre de 18h30 à 20h, donc un magazine sur la société telle qu'elle est chaude, dans la rue aussi, où demain on parle de grève, voilà, ça bouge en ce moment. C'est...